Et tout de suite, comme promis, le tour de table culturelle.
Europe 1.
Plus que jamais, mes amis, en ces périodes de confinement, le tour de table de la culture du samedi matin sur Europe 1 a toute sa raison d'être. Et je remercie ceux qui ont travaillé pour ce tour de table, même s'ils n'ont pas vu grand-chose, forcément, mais ils ont des tas d'idées. Mathieu Charrier, en l'occurrence, Nicolas Caro, Angèle Châtelier, et puis moi-même, bien sûr. Mes amis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous commençons avec vous, Mathieu Charrier. Pas de cinéma, pas de sortie cinéma, bien sûr. D'ailleurs, c'est assez lunaire de voir dans les rues, sur les colonnes Maurice à Paris, très bientôt, donc le 27 mars, par exemple, la sortie du dernier film. Tout ça est reporté au calendrier grec, mais grâce à la VOD, on peut revoir des films chez soi. Et alors ça, c'est top, parce qu'on peut revoir des trucs formidables. Vous nous avez sélectionné un. Ben dis donc, je connais pas. Ça s'appelle Rebelle. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, l'histoire est géniale. On est dans une usine de reconditionnement de macro.
Ah, mais si, je l'ai vu, c'est à Boulogne-sur-Mer.
Voilà,
c'est génial, c'est trop bien, oui.
Les femmes, parce qu'il y a surtout des femmes, travaillent sur la chaîne de production. Et vous savez, cette tenue bleue adéquate, la petite Charlotte, on va s'arrêter sur trois employés, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Cécile de France.
Et elles ont des masques d'ailleurs pour mettre les macros en boîte,
elles
signale.
Bien,
hein,
elles feraient bien de nous les donner.
Nous. Voilà.
Alors elles sont sous le joug d'un chef haillon, vous savez, bien insupportable, hein, qui use, abuse de son pouvoir, il s'appelle Jean-Mi. Si bien qu'un soir, il tente de violer Cécile de France, elle se défend, elle lui claque la porte du vestiaire sur l'entrejambe, ce qui... lui sectionne littéralement le sexe, on le voit à l'écran, c'est assez particulier. Évidemment, l'homme meurt et elle se rend compte qu'il a un sac de sport rempli de billets de banque, elle s'en empare. C'est le début des ennuis, avec notamment des trafiquants de drogue belges.
Il est mort.
Oh, on a bien vu, merci.
Le problème, c'est qu'il faudra le sortir d'ici.
On peut le sortir petit à petit, hein.
Bah quoi ? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro, c'est pareil, non ?
Voilà, donc
Jean-Mi ou un macro.
Jean-Mi ou ce qu'il en reste va sortir conditionné dans des boîtes de macro. Ça vous donne une idée de l'humour et de l'ambiance qu'il y a dans ce film. Vraiment, on est dans le cinéma social parce que ces femmes, au départ, ouvrières, elles n'ont pas une vie facile, mais aussi dans le cinéma noir, un petit cinéma de genre.
Alors, je comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi la critique à la sortie du film avait été mi-figue, mi-raisin. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce film.
Moi aussi.
Politiquement incorrect et hilarant. Alors, c'est un film sur les femmes qui se rebellent, joué par des femmes, évidemment. Ça fait très film post-affaire MeToo, toute votre histoire quand même, hein.
Oui. C'est vrai, mais non. Cécile de France dit que c'est un film féminin, mais pas féministe. Je trouve que c'est assez bien résumé. Écoutez-la avec Audrey Lamy.
S'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de jugement, on refait des reproches à personne. C'est juste que là, il se trouve que les héroïnes, au lieu que ce soit des héros, ce sont des femmes. Voilà, et elles prennent leur destinée en main. Et voilà, et dans ce monde masculin très dur, elles utilisent des armes, leurs armes aussi de femmes, et elles s'en sortent super bien.
Ce qui est chouette, c'est quand on a un réalisateur qui se dit « Ah tiens, en fait, cette histoire, j'ai vraiment envie que ce soit des femmes qui la fassent. » On aime avoir un flingue dans la main, on aime buter des gens. On a envie de baston, nous.
Voilà, on est vraiment dans la comédie noire. Il y a du western avec ce sac de fric qui se balade, qu'on enterre dans les bois. Il y a tous ces anti-héros, des gentils, des méchants, une intrigue, de la bagarre. C'est vraiment un bon moment de cinéma, divertissant, un défouloir. Et puis rien que pour voir Yolande Moreau tirer dans tous les sens, ça vaut le coup. Ça s'appelle donc Rebelle et c'est réalisé par Alain Mauduit.
Voilà, vous l'avez compris, Mathieu Charrier et moi, on a beaucoup aimé ce film. Quant à vous, Nicolas Caro, ce matin, vous voulez aller un petit peu de douceur dans ce monde terrible,
oui.
Nous parler de poésie.
Ben oui, je sais que vous aimez ça, Bernard.
Pas tout, mais parfois.
Voilà, mais en ce moment, c'est parfait. Alors attention, pas de la poésie en vers et en alexandrin. C'est un recueil d'aphorismes signé Olivier Hervy aux éditions du Cactus Inébranlable.
J'adore le titre, le Cactus Inébranlable.
C'est une promesse, voilà. Le titre du recueil, c'est L'obstination du liseron. Vous vous souvenez, on avait parlé du dernier recueil d'Olivier Hervy. Le précédent, ça s'appelait La chauve-souris se cogne un mètre avant le mur.
Ah, c'est un de vos chéris. Oui, je me souviens.
Voilà, un aphorisme, c'est une phrase ou un énoncé court. Ça peut être une maxime ou juste une observation du monde. Et dans le cas d'Olivier Hervy, c'est drôle. C'est une petite phrase comme ça qui tord un tout petit peu le réel, qui l'exagère, qui le caricature. Et donc, une situation anodine devient très étrange. Un objet du quotidien devient un peu saugrenu quand il est regardé par Olivier Hervy.
Par exemple, donnez-nous quelques exemples.
Et par exemple, en voilà un qui parle de la bordureuse. Vous savez, la mini débroussailleuse pour faucher l'herbe,
oui,
au pied des murets. La bordureuse est la seule qui rase les murs sans être discrète. Dans le même genre, j'aime bien celui-là. Le rapporteur serait parfait pour dessiner des soleils couchants, mais nos meilleures inventions sont toujours utilisées à des fins scientifiques.
Ah, excellent. Ils sont classés par thème, ces aphorismes ?
Oui, il y a quelques séries, comme la série intitulée « Assez rigolé », que j'aime beaucoup. Par exemple, « Assez rigolé, il est temps de dire aux lanceurs de javelot qu'on a inventé l'arc ». D'ailleurs, en parlant de javelot, quelques pages plus loin, on trouve « Le lanceur de javelot rentre toujours bredouille ».
Ah bah oui,
c'est vrai qu'on les voit rarement rapporter du gibier. D'ailleurs, ils parlent souvent des animaux ou de la nature. « Même debout, le flamant rose est assis sur un tabouret ». Ou alors « La meute est un chenil qui se déplace ». Et alors celui-là, c'est mon préféré, je crois. « La moissonneuse-batteuse coupe à travers champs ».
Superbe, superbe. C'est de l'observation, en fait, en décalant le regard.
Exactement. C'est devenir curieux du banal. C'est le conseil d'Olivier Hervy, en tout cas, si vous voulez écrire des aphorismes.
On dit souvent que quand on va à l'étranger, on regarde dans l'air et quand on est chez soi, on regarde par terre. En fait, il faut regarder chez soi comme si on était à l'étranger. C'est une question de curiosité, en fait, de regarder le quotidien de façon un peu neuve. Et on voit plein de choses curieuses.
Et d'ailleurs, Olivier Hervy scrute aussi ses voisins de quartier. C'est l'avantage de son métier. Il lui suffit de regarder par la fenêtre.
Ce matin, par exemple, j'écris la chose suivante. Ce voisin ne devance son chien loup que s'il fait demi-tour pour rentrer chez lui. Donc on peut voir des choses simplement en regardant son voisin qui balade son chien. Et les gens baladent beaucoup leur chien en ce moment.
C'est tout à fait exact et très bien observé. L'obstination du liseron, donc, chez le cactus inébranlable. Le cactus voilà. Inébranlable, c'est extraordinaire.
C'est pas mal, éditeur. Ça vous plaît.
Absolument, formidable.
Olivier Hervy qui publie aussi sur Facebook. Hervy, H-E-R-V-Y.
H-E-R-V-Y.
Si vous ne pouvez pas vous procurer tout de suite le recueil, vous pouvez aller sur Facebook.
Écoutez, on a un peu de temps pour aller sur Facebook aussi, où je ne suis pas, Dieu merci. Seigneur, merci beaucoup Nicolas Caro pour tous ces conseils. Et Angèle Châtelier, bah, il n'y a plus un concert, il n'y a plus un spectacle vivant. Elle pleure tous les soirs sur son prie-Dieu. Mais elle va nous parler musique quand même. Quant à moi, j'ai un très très bon polar de politique fiction qui se passe en Israël après-demain ou demain. C'est toute la question. A tout de suite.
Europe 1.
On reprend ce tour de table culturel donc avec la spécialiste musique d'Europe 1, Angèle Châtelier. Angèle, écoutez, on est bien embêté parce que quand on a su qu'on allait être en confinement, vous avez eu, vous, une idée, créer une playlist où chacun d'entre nous, et les auditeurs aussi bien sûr, peuvent mettre les chansons qui leur font du bien, et Dieu sait qu'on a besoin de se faire du bien ces temps-ci.
C'est pour ça que je l'ai appelée Confinement tout doux, une playlist collaborative sur la plateforme Spotify où chacun effectivement peut intégrer dessus des titres qu'ils aiment. Alors je l'ai voulu tendre, triste, parfois moins triste, mélancolique, et je voulais vous partager mes quelques trouvailles, mais aussi celles de ces inconnus qui y ont participé, comme celle-ci.
In restless dreams I walk alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed.
Bah évidemment, moi j'ai reconnu les paroles de cette chanson d'anthologie de Simon et Garfunkel.
Exactement, The Sound of Silence, ici c'est la chanteuse de jazz Carmen McRae qui la chante. Bien. Une reprise sortie en 1968, soit 4 ans après le duo américain. Merci à Marion pour cette découverte et merci à Guillaume pour celle-ci.
C'est
pas une playlist que de chansons déprimantes. Hein. Ici,
bah
c'est le groupe Together Panji, basé en Californie, qui font ce qu'on aime appeler de la surf music, qui rappelle le soleil, donc on en a bien besoin.
Absolument. Je rétropédale deux secondes en parlant du Sound of Silence, le son de la musique. On l'éprouve tous les jours, hein, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de bruit dans les rues. Et quand on est à la fenêtre, il n'y a pas un bruit qui nous vient d'en bas. Est-ce que nos amis journalistes de la rédaction d'Europe 1 ont participé à cette playlist?
Eh bien, Bernard, en attendant votre participation.
Ah bah moi, je vais vous donner des idées. Oui.
Il y en a au moins un qui s'est pris au jeu, c'est Jean-Rémi Baudot, l'un de nos journalistes politiques, qui a voulu nous faire partager une chanson du britannique James Wrighton, ancien claviériste du groupe Klaxons.
Pas non plus, vous voyez. Hein.
Eh bien, c'est un titre qui s'appelle The Performer. C'est un extrait de son premier album solo sorti hier.
Hier même.
Eh oui.
Ah bah c'est tout frais. Alors en revanche, ce que j'ai entendu hier soir avec les fenêtres ouvertes chez moi, c'était pas frais du tout, mais c'était magnifique. D'un immeuble à côté sortaient Brassens
génial.
Et Barbara.
Oh, incroyable.
Et c'était extraordinaire.
Ah oui.
Absolument extraordinaire. Merci beaucoup Angèle Châtelier. On peut donc écouter cette playlist collaborative sur Spotify. Elle s'appelle, je vous le rappelle, Confinement tout doux. Allez, une petite dernière pour la route.
Oui, je finirai par un groupe californien également qui s'appelle No Vacation parce que c'est tout doux, justement.
Très chouette ça aussi. Bien. Merci beaucoup en tout cas Angèle Châtelier et merci à ceux qui vont participer à l'enrichissement de cette playlist, donc je vous le rappelle, sur Spotify. Tout ça ne me parle pas beaucoup, c'est de la technologie de pointe, ça m'échappe un petit peu, mais en tout cas je pense que ça devrait intéresser pas mal de monde. Et en matière de choix polar cette semaine, je voudrais me raccrocher d'une certaine façon à l'actualité qui est la nôtre. Depuis maintenant une semaine, la France est plongée dans un scénario de science-fiction qui est malheureusement devenu réalité. D'autres scénarios, tout aussi improbables, ont précédé le nôtre. Par exemple, la dérive de l'État d'Israël, passé en 70 ans d'une magnifique utopie humaniste bâtie sur les ruines fumantes de la Shoah, à une guerre civile éternelle, téléguidée par l'extrême droite et les ultra-religieux. Poussons un petit peu plus loin. Nous sommes demain, ou en tout cas dans pas longtemps. La partition d'Israël est actée par un mur de 6 mètres de haut, bientôt surveillé par des drones garde-frontières avec permis de tuer. À l'est, il y a le Grand Israël, capitale Jérusalem, aux mains des adorateurs de la Torah, manipulés par les activistes russes qui les financent et les arment. À l'ouest, il y a le pays des résistants, capitale Tel Aviv, un agglutinement d'hommes et de femmes guidés par une seule obsession, vivre libre, loin des diktats religieux ou politiques. Comme chacun sait, un mur est fait aussi pour être franchi. Et pour diverses raisons, toutes valables et toutes périlleuses, Haïm, Moussa, Malika, Anna, Elie et Isaac vont tenter l'aventure. Il y aura de la casse, bien sûr, mais pas que. Car au-delà de cette terrifiante uchronie, Les Lumières de Tel Aviv est aussi le roman de l'irrésistible passion d'un homme et d'une femme, Elie et Anna. Voici fort longtemps, ils étaient amants. La vie les a séparés, le mur aussi, mais ils ne le savaient pas. Quand ils l'apprennent, ils n'ont plus qu'un seul objectif, franchir l'obstacle. Les Lumières de Tel Aviv d'Alexandra Schwarzbrod vient de paraître dans la collection Rivage Noir. Alors vous allez me dire, les librairies sont fermées. Oui, mais ça vaut vraiment le coup de patienter car bientôt, heureusement, les librairies aussi rouvriront leurs portes. Voilà pour ce premier tour de table culturel confiné, n'est-ce pas ? En tout cas, merci beaucoup Angèle, Nicolas et Mathieu. Bonne semaine culturelle.
Salut.
Bonne semaine.